Des Amazones mythiques ensorcelées et sorcières comme Médée se vengeant de Jason, la reine Amazone pentésilée luttant contre Achille, mais aussi Judith contre Holoferne, aux figures plus récentes telles que Thelma et Louise, Black Mamba, héroïne du film Kill Bill, Nikita, Arya dans Game of Thrones, la boxeuse de Million Dollar Baby, pour n'en citer que quelques-unes. Les figures de femmes violentes sont nombreuses dans les productions littéraires, cinématographiques, culturelles en général. Pourtant, au-delà de ces figures fictives, les femmes violentes existent aussi dans le monde réel. Des reines qui n'ont pas hésité à en venir au meurtre pour asseoir leur pouvoir, jusqu'aux résistantes, en passant par les sœurs Papin, les suffragettes, les combattantes, Maria del Carmen Garcia, Jacqueline Sauvage, mais aussi les tueuses en série, les terroristes, les mineurs criminels. Ces femmes violentes existent, celles qui s'emparent de la violence dans le monde réel pour parvenir à leur fin, quelle qu'elle soit. Elles suscitent en même temps fascination et aversion, elles sont décrites à la fois comme courageuses et monstrueuses, pourtant elles sont souvent passées sous silence. Une chose est sûre, ces femmes violentes n'en finissent pas d'éveiller des interrogations. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Violente et à travers ce podcast on s'intéressera à ces figures, fictives ou réelles. Comment est-ce qu'elles sont représentées? Quel type de violence est-ce qu'elles utilisent? Qui sont leurs victimes? Font-elles preuve d'une violence première ou s'agit-il d'une riposte comme réponse à une violence antérieure qu'elles ont subie? Vengeance, ambition, révolution, les motivations et les violences sont diverses. Il s'agit donc de visibiliser ces femmes violentes trop longtemps et trop souvent cachées. Elles ont existé à travers les siècles, elles ont souvent été tuées. Il importe donc de mettre aussi en voix leur histoire. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, merci d'écouter Violente, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème des femmes dans la commune, et notamment des femmes combattantes impliquées militairement dans cet épisode politique. La participation des femmes pendant la commune de Paris en 1871 a d'abord fait l'objet d'un oubli. C'est un sujet qui a été longtemps négligé, puis il a été mis en lumière par les travaux d'Edith Thomas sur les pétroleuses, donc on va voir après qui étaient ces femmes désignées ainsi. À sa suite, dans une série d'études notamment anglophones sur l'histoire des femmes, la commune était un moment remarquable de libération de l'action féminine, notamment dans le domaine politique. Mais cette image d'une commune libératrice de l'action féminine a ensuite été nuancée par un portrait un peu plus contrasté du rôle des femmes pendant cet épisode politique. Mais quand même, donc, un bataillon de l'armée, au moins pendant la commune, a été constitué exclusivement de femmes. Il s'agit du bataillon des fédérés du 12e arrondissement, qui a aussi été appelé bataillon des femmes ou légion des femmes. Il a été créé le 11 mai 1871. Il était composé d'au moins 20 femmes. Il a été créé sous les auspices du colonel de la garde nationale locale, Jules Montel. Alors, même si c'est un des bataillons les mieux documentés concernant les femmes engagées militairement dans la commune, il a pourtant fait l'objet de peu de travaux. Donc, il y a notamment un historien britannique, Martin Johnson, qui lui a consacré un article, mais cet article commence à dater un peu aujourd'hui, puisqu'il est sorti en 1994, et il aborde finalement peu la question de la violence des femmes. Quentin Delvermoz a également écrit un article des communardes sur les barricades à propos de ce bataillon dans le livre « Penser la violence des femmes ». Dans un autre article se basant sur les procès et les condamnations à la suite de cet épisode, le même historien, donc Quentin Delvermoz, essaye d'évaluer le rôle des femmes à partir de la manière dont elles ont ensuite été traitées par la justice, en s'appuyant notamment sur les archives judiciaires, militaires et civiles. Il écrit qu'analyser l'histoire de ce bataillon permet d'approfondir l'analyse du fait militaire de la commune, parce que beaucoup de travaux en fait ont été écrits sur l'événement parisien, sur les acteurs, sur les projets, sur les politiques, mais peu d'études finalement qui analysent vraiment les manières de combattre des communards sur les affrontements sur les barricades. Et étudier le bataillon du 12e arrondissement permet ça justement, il permet donc de se concentrer sur les manières de combattre, mais aussi, bien sûr, il permet de prolonger les analyses sur les activités des femmes pendant la commune et sur les relations entre hommes et femmes pendant ces événements. Et finalement, cette perspective permet aussi d'établir des éléments de réflexion plus large sur la question de la violence des femmes en situation révolutionnaire. On va donc se demander aujourd'hui quel a été le rôle des femmes lors de l'épisode de la Commune de Paris? Et plus précisément, est-ce qu'elles ont tenu un véritable rôle militaire? Est-ce qu'elles ont combattu sur les barricades aux côtés des hommes? C'est le sujet de cet épisode 4 de Violente.
Dans un troquet de la rue du Temple de la belle Commune de Paris, le 11 avril 71, l'union des femmes, ce jour naquit, fondée par Nathalie Lemel, Elisabeth Dmitrieff, les femmes répondent à l'appel, rédigent ensemble tous leurs griefs. L'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Pour elle que l'histoire en France puisse tirer un trait sur le passé. Elles ont un rôle déterminant, cerclant la garde nationale. Le 18 mars au commencement, c'est un fait qui n'est pas banal. Usant de fraternité, les gardes ont rejoint les rangs. Pour l'amour de la liberté, les Versaillais ont foutu le camp.
Pour commencer, je vais juste repréciser ce qu'est la Commune de Paris, donc dans quel contexte politique cet épisode révolutionnaire s'inscrit. Donc il s'agit d'un soulèvement qui a eu lieu à Paris entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Alors au début de la crise, on est sous le Second Empire, c'est l'empereur Napoléon III qui a déclaré la guerre à la Prusse en juillet 1870, ce qui a provoqué une grande crise politique, et notamment lorsque, en septembre 1870, la France perd à Sedan. Napoléon III se rend aux troupes allemandes, qui assiègent alors Paris pour forcer un armistice, mais la capitale rejette la capitulation et résiste au siège qui dure alors de septembre 1870 au 28 janvier 1871. Pendant ce temps-là, les députés républicains de l'Assemblée nationale proclament la Troisième République et installent un gouvernement provisoire. La ville est à ce moment-là défendue par la garde nationale, donc c'est une milice urbaine, ce qui permet également de résister au siège. Et il y a également la création de comités de vigilance dans les arrondissements de Paris. Des dissensions apparaissent entre le gouvernement provisoire majoritairement bourgeois et la population. Et alors que la population de Paris résiste au blocus et espère remporter la guerre, le gouvernement provisoire entame des négociations de paix avec Bismarck. Ce qui aboutit donc à un armistice qui est signé fin janvier 1871, Paris doit capituler, et les nouvelles élections donnent une majorité aux royalistes ruraux qui eux veulent la paix, et Adolphe Thiers devient chef d'État. À ce moment, l'Assemblée multiplie des mesures maladroites. En fait, par exemple, les Prussiens défilent dans la capitale, l'Assemblée est installée à Versailles, la solde de la garde nationale est supprimée. Donc les Parisiens se sentent en quelque sorte trahis, le climat est très tendu, et Adolphe Thiers se méfie de la population et demande donc aux miliciens parisiens de déposer les armes, le 18 mars 1871. La population encercle alors les soldats pour les empêcher d'agir et les troupes finalement fraternisent avec la population. Et c'est à ce moment-là que le général demande aux soldats d'ouvrir le feu sur la foule. Et c'est là précisément que le peuple de Paris se soulève. Il capture et fusille deux généraux et Thiers fuit la capitale pour Versailles. L'hôtel de ville est pris par les Parisiens et fin mars, la Commune de Paris est constituée et elle est gouvernée par un conseil communal. Donc lors de cet épisode, la Commune prend de nombreuses mesures sociales pour améliorer la vie des classes inférieures, avec par exemple l'abolition de l'usage de la guillotine, la création de crèches dans les usines pour améliorer la garde des enfants, les salariés dont les entreprises ont été abandonnées par leurs propriétaires peuvent gérer eux-mêmes les usines. Donc la ville, pendant ce moment, résiste aussi aux attaques des troupes versaillaises qui essayent de reconquérir la capitale, jusqu'au 28 mai, où les dernières poches de résistance sont vaincues. Et cette dernière semaine est connue comme la semaine sanglante, marquée par une violente répression contre les citoyens avec des exécutions sommaires de milliers de personnes. Cet épisode révolutionnaire offre notamment une nouvelle place aux femmes dans la vie publique de la ville, parce qu'au cours du 19e siècle, les femmes sont largement exclues de cette vie politique, mais le contexte de la Commune leur offre des possibilités d'expression et d'action inédites qu'elles vont mobiliser. Quelques femmes sont bien connues, par exemple Louise Michel ou encore Elisabeth Dmitriev, qui était déléguée de la section russe de l'Internationale, ou encore André Léo, une femme de lettres et une militante socialiste. Mais au-delà de ces noms, il y a eu également donc des organisations importantes et actives constituées par des femmes qui se mettent en place. Par exemple, le comité de vigilance des femmes de Montmartre, qui est inspiré des comités de vigilance masculins de la ville et qui a été animé par Louise Michel et André Léo. Également, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui est créée en avril 1971 par Elisabeth Dmitriev et Nathalie Lemel. C'est une union qui se charge notamment d'organiser le travail féminin sous la commune. Et même si elles sont parfois moquées, certaines participent aux réunions publiques et aux débats, et d'autres participent aussi militairement en accompagnant les soldats sur le front, en s'occupant de charger des fusils, d'amener les munitions, donc elles ne sont pas totalement exclues du port d'armes. Et aussi, il y a eu un épisode en octobre 1870, donc avant la Commune, où Félix Belli, contre les préjugés de l'époque, a voulu créer un bataillon d'Amazon, en fait, et c'est une trace qu'on retrouve dans sa publication, parce qu'il a lui-même publié un livre en octobre 1870 où il explique un peu ses idées, et donc il aurait voulu enrôler plus de 30 000 citoyennes pour les combats, mais c'est un projet qui n'a jamais pu être mis en place. Donc on peut voir que les femmes sont des actrices à part entière du mouvement communard. Certaines sont simplement présentes au moment des faits, d'autres sont plus engagées, ont un discours politique plus construit. Elles sont présentes aussi dans la rue parce que la rue constitue véritablement un espace de débat. Mais les femmes restent globalement exclues des fonctions militaires, mais elles ne sont pas pour autant absentes des barricades ou des avant-postes comme on l'a vu. Par exemple, il y a un rapport d'Octave de Peyre à l'Assemblée nationale le 16 juillet 1872, où il déclare que les femmes actives lors de la Commune étaient pour la plupart des ambulancières, des cantinières ou des vivandières. Donc, cette participation féminine peut paraître importante dans le cadre du 19e siècle, parce que c'est une période qui tend à renforcer la répartition des rôles masculins et féminins entre sphère publique d'un côté et sphère privée de l'autre, mais il faut également montrer les limites de cette participation féminine, comme Michel Perrault dans son livre « Les femmes ou les silences de l'histoire », où elle souligne que les femmes sont exclues des postes de pouvoir et des fonctions administratives les plus anodines. Par exemple, André Léo parle finalement d'une révolution sans la femme, parce qu'elles n'ont pas eu le droit de vote, l'activité guerrière féminine reste mal vue, et les gardes nationaux de la commune ne sont pas forcément favorables non plus aux incursions féminines, et l'accès des femmes aux armes reste donc difficile, et lorsqu'elles en font usage, les événements ne sont pas forcément mis en avant. Donc même si le partage des rôles s'estompe sûrement un peu plus sur le terrain, les nombreuses femmes au plus près de la violence guerrière restent pour la plupart cantonnées, de fait ou par leur accord tacite, à des fonctions considérées comme proprement féminines, donc l'éducation, les soins, la nourriture. Et on peut le voir par exemple à travers le nom complet de l'Union des femmes qui est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Et les nombreuses photographies aussi confirment aussi cette présence féminine à côté des soldats. Donc des distinctions et des hiérarchies persistent entre les rôles des hommes et des femmes. Mais il existe aussi d'autres formes de participation féminine à l'action militaire qui sont plus directes. Dans une transgression un peu plus étonnante des normes de genre de l'époque, des femmes armées étaient prêtes à participer au combat, fédérer et organiser un bataillon, comme le montrent les études de Martin Johnson et de Quentin Deluermoz sur le bataillon des fédérés. Donc il naît dans le 2e arrondissement, un quartier très engagé dans le mouvement, parce que la mairie souhaitait traquer les réfractaires, ceux qui voulaient échapper au service de la garde nationale et ne pas défendre la commune. Et Jules Montel, le commandant du 173e bataillon pendant le siège, nommé colonel, fonde ce bataillon de femmes le 10 mai 1971. Et une affiche parue le même jour en précise les ambitions et on peut lire « Des citoyennes, des femmes héroïques, pénétrées de la sainteté de notre cause, ont demandé des armes au comité de salut public pour défendre, comme nous tous, la commune et la République ». Donc le bataillon est constitué rapidement, en quelques jours, et il se compose, selon les témoins, de 20 à 100 femmes, et son existence est notamment attestée par de nombreux témoignages conservés dans les dossiers de justice militaire, qui ont vu par exemple ce bataillon défiler depuis la Bastille jusque la mairie du 12e arrondissement à plusieurs reprises. Son rôle principal est donc d'accompagner la Légion au combat, mais dans ses missions, il est aussi écrit que les citoyennes volontaires doivent désarmer les réfractaires publiquement, donc devant leur bataillon, et ensuite les conduire en prison. C'est donc un bataillon qui est formé par un homme, et sa création répond à une mission d'humiliation des soldats refusant le combat. Et les femmes fédérées exercent une action de contrainte, qui est l'arrestation des réfractaires. Mais on peut voir qu'il y a quand même déjà une certaine limite à ce pouvoir féminin, puisque ce sont des interventions qui sont tournées vers l'intérieur. Ces femmes ne vont pas dans l'affrontement armé ou vers le front proprement dit. Et elles font souvent appel aussi à la force armée des gardes pour arrêter les réfractaires en fait. Et le bataillon est dirigé par la colonelle Valentin. Aucune trace directe n'a été retrouvée la concernant, mais des témoignages concordent sur son rôle. Il y avait également la capitaine Necbecker. Des noms de famille d'autres femmes ont aussi été retrouvés, Ménard, Siron, Lambin. Et à partir des dossiers militaires des femmes supposées faire partie de ce bataillon, des analyses ont montré qu'il était surtout composé de femmes de milieu populaire, souvent liées par le mari ou par la famille au lieu de pouvoir de l'arrondissement. Par exemple, Julie Magot, elle faisait partie de ce bataillon et elle était la femme de Louis Magot, un délégué de la mairie du 12e arrondissement. Le bataillon était donc organisé militairement avec des grades, comme on l'a vu, et ces femmes pratiquaient également le défilé, donc qui était un élément important de la vie militaire et citoyenne sous la commune. C'était un symbole de participation à la vie communarde et une manière d'exposer la force armée, et donc ces défilés sont fréquemment mentionnés dans les journaux intimes de l'époque. Et les femmes de ce bataillon avaient une tenue particulière, selon leur propre déclaration elles avaient un brassard et une ceinture rouge et des armes, même si pour les armes les concernaient ni en avoir porté, mais des témoignages extérieurs mentionnent la présence de revolvers et de fusils personnels dans leur tenue. Et selon les témoignages recueillis, le bataillon semble avoir rempli une partie de sa mission parce que de nombreux hommes, par exemple un aiguilleur au chemin de fer de Lyon, expliquent avoir été arrêtés par des gardes nationaux sur dénonciation de ces femmes. Elles sont décrites comme des mégères, comme des terreurs dans le quartier qui mobilisent ce pouvoir de surveillance tout en exerçant une contrainte physique sur les hommes. Donc le bataillon du 12e arrondissement disparaît au moment de l'entrée des troupes de Versailles dans Paris, au moment de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Et lors du mois de mai, la colonelle Valentin appelle lors d'une réunion du club Éloie. Donc le club Éloie, c'était un point central de l'action révolutionnaire où sont organisés les débats et les échanges politiques. Donc cette colonelle Valentin demande à ce que toutes les citoyennes se rendent utiles à la cause que nous défendons aujourd'hui. Elle dit de garder les postes dans Paris tandis que les hommes iront au combat. Elle n'hésite pas également à déclarer « J'engage toutes les femmes à dénoncer leur mari et à leur faire prendre les armes. S'ils refusent, fusillez-les. » Donc, après l'épisode de la Commune, les combattantes de cette Légion doivent faire face à de lourdes condamnations. Julie Magot est condamnée à de la prison. Louise Necbecker doit servir 5 ans en prison et elle est condamnée à 10 ans de surveillance. Et Marie Rogissart est condamnée à 7 ans de travaux forcés en Nouvelle-Calédonie. Mais ce bataillon du 12e arrondissement n'est pas le seul à avoir offert l'opportunité aux femmes de jouer un rôle militaire lors de la Commune. Donc globalement, les femmes semblent avoir également réellement combattu sur les barricades. Louise Michel décrit sa participation à la lutte dès le mois de janvier avec des habits de garde nationale. On sait également que des femmes des Batignolles ou de Montmartre ont pris part aux côtés de Louise Michel au combat de l'Hôtel de Ville. Et elles apparaissent aussi dans d'autres endroits un peu moins connus. D'autres bataillons armés ont aussi existé. L'un des mieux renseignés a été créé dans le 10e arrondissement, dans le comité central de l'Union des femmes. Et face à une demande des citoyennes réclamant la paix, le comité avait proclamé ses intentions dans le manifeste du comité central de l'Union des femmes, le 6 mai 1871, qui a été signé par Lemel, Jacquin, Lefebvre, Dmitrieff, et où il est écrit « Les femmes de Paris prouveront à la France qu'elles aussi sauront au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes, donner comme leurs frères leur sang et leur vie pour le triomphe de la Commune. » Donc on voit ici aussi un souhait de violence par l'action militaire et combattante de la part de certaines femmes durant la Commune. Et en effet, Suite à cette proclamation, le 21 mai, c'est-à-dire au début de la semaine sanglante, 50 de ces femmes vont d'elles-mêmes prendre les armes, donc ceintures, écharpes, fusils, elles se rendent vers la barricade rue Pigalle et y plantent un drapeau rouge. Le port des vêtements, les armes et le drapeau est conforté par de nombreux témoignages, par exemple celui de la femme Lemel qui a reconnu tous les faits, sauf celui d'avoir porté une arme. Donc l'usage des armes par les femmes s'est accéléré aussi avec l'entrée des troupes de Versailles pendant la semaine sanglante. Par exemple, certaines femmes, donc, parmi lesquelles Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Lemel, Blanche Lefebvre, défendent la place Blanche sur une barricade le 23 mai 1971. Et on a donc un témoignage de Malvina Blanchecotte qui raconte dans ses tablettes, publiées en 1872, qu'une barricade s'est érigée contre sa maison le 23 mai et qu'elle était gardée par des femmes. Cette barricade rue Blanche est une barricade célèbre dans le 9e arrondissement et elle a été appelée barricade des femmes et elle est évoquée par plusieurs sources. Elle est mentionnée par exemple dans les écrits de Louise Michel, parfois de manière stéréotypée, dans les mémoires aussi de Victorine Brochet, de Prosper Lissagré, et elle est aussi évoquée par des témoins un peu plus anonymes et directs qui ont été interrogés pendant les conseils de guerre. Donc son existence est bien attestée, même s'il faut un peu se distancier des discours qui ont beaucoup réécrit autour de cette barricade. Mais des femmes en armes ont construit et ont forcé les passants à construire cette imposante barricade et selon les mêmes sources qui attestent de son existence, elles ont combattu dessus. Les femmes ont donc parfois eu aussi des fusils et s'en sont servies dans les combats. Aussi, une centaine de femmes retardent les troupes du général Clinchamp avant de se replier place Pigalle et de nombreuses communardes sont aussi présentes pour la défense de la gare de Montparnasse. La violence féminine apparaît également à travers la culture des armes chez les survivantes. Par exemple, Louise Michel décrit son amour de l'odeur des armes ou encore Julie Magot qui, pendant son audition ou son procès, se montre malgré elle qu'elle connaît les armes parce qu'elle sait distinguer un pistolet coup de poing d'un revolver. Donc, l'espace de la barricade, l'engagement physique dans l'affrontement et la perspective révolutionnaire ont brouillé la relation entre femmes, politique et violence, et les femmes de la commune ont réussi à s'emparer véritablement de la violence dans des moments certes éphémères, mais qui sont attestés. Et tout de même, donc, c'est un moment qui reste difficile à analyser, et notamment en raison du silence des sources. Mais au-delà des femmes combattantes communardes dont l'existence a été avérée par les archives judiciaires, par des nombreux textes, des journaux et des témoins, d'autres femmes violentes sont apparues également dans les récits de la commune, et cette fois sous la forme d'un mythe, jamais prouvé, donc c'est le cas notamment des pétroleuses, dont parle Edith Thomas dans son livre. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la semaine sanglante, des cohortes de femmes sont accusées par les Versaillais de provoquer des incendies qui visent à détruire la capitale, et la rumeur court notamment que ce sont des femmes qui ont incendié les monuments de la capitale et notamment l'hôtel de ville. Et elles sont désignées sous le nom de pétroleuses parce qu'elles utiliseraient du pétrole pour provoquer ces incendies. Et l'image de la pétroleuse de la commune est abondamment diffusée, notamment par la presse anticommunarde et par le dessin. Par exemple, le 27 mai 1871, alors que la semaine sanglante n'est pas encore finie, un article intitulé « Les pétroleuses » paraît dans le quotidien Paris Journal, dont le directeur de publication Henri de Peine est un journaliste anticommunard connu. Dans cet article, les pétroleuses sont décrites comme enrégimentées, comme des infâmes créatures qui accomplissent le plus odieux des crimes. Donc il est par exemple écrit « Les incendiaires sont enrégimentées, ce sont des femmes, elles ont pour mission, les infâmes créatures, de jeter par les soupiraux des caves, par les fenêtres, dans tous les endroits qui leur semblent propices, et en particulier dans les édifices publics, du pétrole et des mèches. » Et donc, en septembre 1871, a lieu un procès de 5 de ces pétroleuses devant le conseil de guerre, et donc paraissent Elisabeth Retif, Léontine Sueutens, Joséphine Marchais, Eulalie Papavoine et Lucie Bauquin. Elles sont blanchisseuses, couturières, cartonnières, et elles ont entre 24 et 36 ans. Pourtant, aucune preuve formelle de possession de pétrole n'est apportée, et des recherches récentes par les historiens de la commune, comme Gay Gullickson, ont révélé qu'il n'y a eu en fait aucun incident avéré d'incendie volontaire commis par des femmes. Il a été démontré lors du procès que, en effet, donc, ces femmes portaient des insignes politiques, qu'elles ont suivi des bataillons, qu'elles ont soutenu les fédérés, mais aucune reconnaît son rôle d'incendiaire et leur participation à des incendies n'est jamais démontrée. Mais donc, puisqu'elles ont participé à la lutte, elles sont inculpées au motif de appartenance à une bande, excitation à la guerre civile, complicité d'incendie et complicité d'assassinat. Trois sont finalement condamnées à mort, une à la déportation et la dernière à 10 ans de prison. Et l'historienne Edith Thomas démontrait dans son ouvrage Les Pétroleuses, qui a été publié en 1963, qu'il s'agissait bien d'un mythe et que sous ce terme, le but était en réalité d'occulter et de discréditer le rôle politif actif des femmes pendant la Commune. La pétroleuse, c'est l'incarnation d'une femme incendiaire qui a participé aux destructions de la Semaine sanglante et qui incarne, aux yeux des Versaillais, la barbarie la plus totale, vraiment la femme dans son dévoiement le plus complet, une femme qui ne respecte pas le rôle qu'on lui prescrit durant ce 19e siècle. Et c'est ce que montre en fait la condamnation de ces cinq femmes dont on vient de parler en fait, c'est que c'est une condamnation d'importance symbolique essentielle qui montre un retour à l'ordre. Et c'est la même idée que Gullickson développe en montrant que le mythe de la pétroleuse faisait en réalité partie d'une campagne de propagande orchestrée par les hommes politiques versaillais, dont le but en fait était d'accorder une victoire idéologique et morale aux forces loyalistes contre les communards qui seraient contre nature et donc contre ces parisiennes de la commune qui sont dépeintes comme destructrices et comme barbares. Quand on se penche aussi sur les procès tenus contre les femmes combattantes et impliquées dans la commune, on voit aussi des représentations intéressantes concernant les femmes violentes. Donc, comme on l'a déjà évoqué, en 1872, il y a Octave de Peyre qui rencontre devant l'Assemblée nationale des opérations judiciaires qui concernent les femmes et il constate que 1050 femmes sont passées devant des conseils de guerre. Donc 1050 femmes ont eu un procès contre entre 33 000 et 35 000 pour les hommes, ce qui fait donc 3% au total. Et 80% de ces femmes ont bénéficié d'un non-lieu contre 60% pour les hommes. Et concernant les seules condamnations, 10% des femmes sont condamnées contre 28% des hommes. Donc les femmes de la commune sont moins poursuivies que les hommes, ce qui peut sembler normal parce que les tribunaux rendent leurs décisions à partir des positions occupées, à partir des armes portées ou bien des actions effectuées. Et ces données révèlent qu'il y a un certain partage des tâches et des rôles de genre sous la commune, où ce sont donc les hommes qui effectuent des actions plus graves aux yeux de la justice. Mais la question reste plus complexe parce que si on regarde plus précisément, on voit que même si moins de femmes que d'hommes ont été condamnées, donc c'est-à-dire une centaine en fait, elles le sont plus durement que les hommes. Et c'est ce que Deluermoz met en avant dans son article intitulé « Ambiguë criminalité, le traitement judiciaire des femmes de la commune ou le retour à l'ordre sexuel et politique ». Concernant les condamnations effectivement prononcées, les femmes apparaissent surreprésentées pour les sanctions les plus lourdes. 13% d'entre elles sont condamnées à mort contre moins d'1% pour les hommes. 13% aussi sont envoyées aux travaux forcés contre moins de 3% pour les hommes. Et les hommes sont plus largement condamnés à la déportation simple, 34% contre 10% pour les femmes, et à la détention, 13% contre 7% pour les femmes. Donc, d'un côté, en fait, pour les actes de participation moins évidents ou symboliquement moins marqués, les tribunaux semblent plus cléments, et on retrouve par exemple cette compassion dans le rapport du capitaine Brio sur les opérations judiciaires concernant les femmes, qu'il qualifie de malheureuses. Et pour lui, les causes de participation des femmes à l'insurrection sont simples, elles sont ignorantes et dénuées de sens moral. Pour les juges, les femmes des milieux populaires n'ont donc pu être qu'entraînées par les communards, sans oublier que certaines, selon le rapport, obéissaient au besoin de crier et d'insulter qui paraît inhérent à une certaine nature de femme. Donc, le capitaine Brio conclut finalement en disant que la participation des femmes à la commune a été causée par l'absence de sens moral, l'insuffisante réglementation de la prostitution, les discours subversifs et par l'international. On peut voir que dans la pensée de ce capitaine, partagée aussi par beaucoup d'autres en fait, hein, les femmes ne sont naturellement entre guillemets pas capables d'une action politique et dans cette perspective, les femmes sont soit des victimes, soit des monstres et c'est notamment en ce sens que sont considérées les pseudo-pétroleuses. Finalement, donc cette participation des femmes aux actions de la commune a été longtemps négligée, occultée et mise à distance et ce pour plusieurs raisons. Il y a d'un côté un désintérêt judiciaire pour les actions des femmes. Donc, en fait, les massacres qui accompagnent la reconquête de Paris lors de la Semaine sanglante tuent à la fois les hommes, les femmes et les enfants. Mais les recherches policières se concentrent davantage sur les hommes. Et comme on l'a vu, l'attention des conseils militaires varie selon le type de violence. Ils cherchent activement à sanctionner les pratiques pyromanes des pétroleuses, même s'ils n'ont aucune preuve. Et lorsqu'il ne s'agit pas de femmes et de figures clés du mouvement comme Louise Michel ou Nathalie Lemel par exemple, qui apparaissent comme des représentantes de cet épisode, la violence féminine exercée dans un cadre militaire ou guerrier semble finalement susciter peu d'intérêt. Et également, la plupart des récits sur la commune comportent en fait un chapitre ou un paragraphe effectivement sur le rôle des femmes, oui, mais ils restent toujours à distance des faits et la participation armée des femmes est plutôt le signe de quelque chose de global. Par exemple, dans les récits ou les histoires qui dénoncent les exactions de la commune, la violence des femmes témoigne d'un dérèglement mis à l'œuvre au cours de l'épisode globalement en fait, et qui aurait touché à l'ordre naturel des rôles des femmes et des hommes. Mais également, donc c'est une dernière des raisons d'occultation de cet épisode, c'est que ce sont les femmes elles-mêmes en fait au moment des événements qui participent à cette occultation, parce que sauf cas exceptionnel, elles nient pendant leur procès la participation au club, la participation à la recherche des réfractaires et le port des armes. C'est un phénomène qui est récurrent, en fait, le fait de se couler dans la version attendue des faits pour éviter des condamnations plus sévères. Elles se contentent de subir des peines déjà lourdes pour le seul fait d'avoir porté des insignes militaires. Donc, finalement, la Légion des fédérés est essentielle pour souligner l'ampleur des décloisonnements mise en œuvre par la commune et pour saisir l'intensité des distinctions qui ont été établies entre les sexes au cours du XIXe siècle. Et même si peu de femmes finalement ont porté et ont utilisé les armes par rapport à leurs équivalents masculins, le phénomène de la prise d'armes féminine est crucial et loin d'être anodin en fait si on regarde par ailleurs l'ampleur des déplacements et des clichés que ça induit. Et donc des personnalités célèbres font figure dans l'histoire et des noms de femmes actrices lors de la commune sont connus, mais la situation des femmes plus ordinaires pendant la commune globalement reste encore méconnue. Il y a beaucoup de recherches à faire pour essayer de mettre à jour comment les femmes ont pu ou pas participer au bouleversement politique. Il faudrait par exemple s'interroger sur les termes de cantinière ou d'ambulancière parce qu'elles ont eu un rôle quasi officiel, elles sont allées proches des combats, mais peut-être que justement ce rôle a pu être détourné pour une action un peu plus militaire. Donc c'est des études qui restent à mener en fait. Par exemple, les textes définitoires de l'Union des femmes soulignent que le soin aux blessés est crucial, mais que en cas de besoin, les femmes peuvent participer au combat. Donc comme en 1789, comme en 1848, il semble que la période révolutionnaire de 1871 ouvre une brèche dans l'ordre social et politique dans laquelle les femmes s'engouffrent, dont elles profitent ou usent, mais que cette ouverture conserve finalement des contours limités. Et les femmes ont pu s'organiser en bataillon, en union, elles ont réussi à lutter avec des armes sur les barricades lors de la Semaine sanglante et même avant. Mais l'accès plus direct aux armes et à leur usage est resté difficile, même si le temps de quelques mois, la frontière entre les genres s'est brouillée. C'était Violente, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous tenir au courant de l'actualité de Transistor et à bientôt pour un nouvel épisode.
Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami, ami, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, ami, chantons, ami, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, ami, chantons. La grandeur de la poudre qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perd ses dents. La danse des bombes, garde à vous, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux.